Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Direct News, le podcast. Aujourd'hui, je vous propose de passer un moment en compagnie de l'homme probablement le plus influent et également le plus visionnaire du monde de l'horlogerie et des affaires. Récompensé à l'année dernière au Grand Prix de l'horlogerie avec le prix spécial du jury. 70 ans cette année, dont 45 dans le milieu horloger. Président aujourd'hui, non exécutif du pôle horloger du groupe LVMH, à son actif plusieurs reprises à succès, dont Blancpain, Omega, Hublot, Tag Heuer et enfin Zénith. Jean-Claude Biver est mon invité, un invité enregistré à 7h du matin en marge du dernier jour du SIHH de Genève. Au programme et avec l'honnêteté qui le caractérise, nous parlerons forcément horlogerie, mais également de football, de sa relation avec Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH, quatrième plus grosse fortune mondiale. Sa fortune, la sienne cette fois-ci, que fait-il de son argent? Où trouver son fromage? Et puis également son regard sur les différents chefs du restaurant de l'hôtel de ville de Crissier. Et enfin, et pour terminer, sa vision de l'horlogerie dans les années à venir. Mais pour commencer, première question dont je connaissais déjà la réponse. Et si tout cela était à recommencer, referiez-vous la même chose?
Alors, j'ai déjà parlé une fois avec Dieu et il m'a demandé ce que je voulais pour la seconde vie. Et j'ai dit, écoutez, moi, je veux pas de deuxième vie. Il m'a dit, non, mais je vous offre quand même, vous êtes un des rares. La plupart des gens me disent, mais oui, j'aimerais ça et ça et ça. Et moi, je lui ai dit, écoutez, éventuellement, si vraiment vous voulez, je voudrais une deuxième vie, mais qui soit la copie de la première. Il me dit, pardon? Avec tous vos doutes que vous avez eus pendant votre vie, les trahisons, les échecs même, les souffrances, les déceptions. Je dis oui, car tout cela m'a fait progresser. Et donc, aujourd'hui, j'ai une vie de privilégié, comme jamais j'aurais même rêvé. Donc, s'il vous plaît, 100% la même. Il me dit, ah ça je peux pas. Je dis, bon, vous me laissez.
Bon, c'est vrai que d'être content de sa vie, Jean-Claude, c'est important. C'est vrai que de l'extérieur, on se connaît depuis un petit moment, on a un peu l'impression que tu as tout réussi. C'en est presque même un peu énervant, sûrement oui. Pour l'entourage. Parce qu'on connaît, il y a un petit mot comme ça qui revient, qui s'appelle la jalousie.
La jalousie, c'est le baromètre. Il y a des baromètres qui nous indiquent le temps qu'il fait, la pression atmosphérique. Et la jalousie et l'envie nous indiquent le degré de succès.
Jean-Claude, on va parler évidemment de montres, hein, d'horlogerie, mais on ne va pas forcément parler que d'horlogerie. Là, on est. Alors, rappelez qu'il est 7h du matin. Donc, 7h du matin, pour moi, évidemment, je n'ai pas forcément les yeux en face des trous. Toi, tu les as complètement en face des trous parce que tu es connu pour ça. À partir de 3h du matin, le réveil sonne. Et là, Jean-Claude Biver, il est à fond les manettes.
Il est à fond les manettes, mais sans le réveil. Je me réveille automatiquement.
En plus.
C'est pour ça que des fois, je me réveille à 2h, 2h30 et parfois à 4h.
On précède souvent l'heure du réveil parce qu'on a peur de rester endormi. Voilà. Mais c'est vrai que peur de rester endormi à 3 heures, ça fait un peu drôle quand même.
Et moi, je me réveille automatiquement en fonction du travail ou des soucis que j'ai. Et donc, ça peut être entre 2h30, mais ça peut aussi être à 4h, 4h30. Et puis, alors, le samedi... Grasse matinée. Et le samedi, je m'efforce à me retourner 10 fois dans le lit pour que je ne quitte pas le lit avant 5h30.
Et puis, alors, comment la mise en route, elle est comment? À 3h, qu'est-ce qui se passe? Juste de 3h à 8h du matin, là où évidemment les gens dorment, on arrive quand même à avancer dans le travail.
C'est fabuleux. quand tu es debout à 3h30, bon, je commence par un café. C'est pas très simple, mais enfin, je commence quand même par un café. Et j'augmente encore le danger de boire du café parce que j'y mets encore du lait. Alors, un café, c'est déjà pas génial. Plus le lait, c'est l'horreur. Et je commence donc tous les matins avec ce mélange. Et ça fait maintenant 70 ans presque qu'on me dit, faut pas faire ça. Allez, alors si tu bois du café, oui, mais alors pas avec le lait. Je m'en fous, je prends café au lait. Et puis ensuite, je me mets souvent en communication avec soit Los Angeles et la plupart du temps avec Hong Kong ou Tokyo, parce que là-bas,
c'est 24 heures
Tokyo,
sur 24.
À Tokyo, hein. il commence à arriver au bureau. Donc, je suis toujours le premier en communication. Et j'ai une théorie, ça fait longtemps que je l'ai, c'est si tu es premier, différent et unique, tu ne peux pas perdre. Donc, si tu commences déjà le matin à être premier, tu t'es déjà levé avec le bon pied. Si le matin, tu es en retard, c'est une catastrophe. Et il faut se souvenir de ce que me disait Monsieur Delamura, Jean-Pascal. Il m'a convoqué chez lui, au château, à l'époque, à Lausanne, et il m'avait convoqué à 5h du matin. Et quand je suis arrivé à 5h du matin chez lui, dans ce bureau, on m'avait dit comment il fallait procéder, par quelle porte, machin et tout. Et au moment où j'arrive dans son bureau, il me dit « Biver, tu sais pourquoi t'es là à 5h ?» Je dis « Nom de Dieu, comment il me parle, il me tutoie ?» Je ne le connaissais pas. Hein. Moi, j'étais tout petit, j'étais jeune, c'était 83, j'avais 33 ans, 34 ans. Je dis « Écoutez, oui, je viens pour les subventions. »« Non, c'est pas pour ça que t'as 5h. T'es ici à 5h, je vais t'expliquer pourquoi. » Et il me dit « Tu connais la forêt du Rizou ?» Je dis « Bah oui, j'habite à la vallée de Joux, je connais la forêt du Rizou. »« T'as vu le nombre de sapins ?» Je dis « Ouais. »« Tu sais ce qu'il y a derrière chaque sapin ?» Je dis « Non. »« Bah, il y a quelqu'un aussi doué que toi. » Ah si, ça fait du monde. et il me dit tu sais comment tu peux les battre ? Je dis non. Eh ben je vais t'expliquer. 300 jours, tu travailleras. Et si tu fais chacun de ces 300 jours, 2 heures de plus, ça fait 600 heures. 300 jours à 2 heures, ça fait 600 heures. Et 600 heures, si tes concurrents travaillent 40 heures par semaine, 600 divisé par 40, ça fait 15 semaines. Et 15 semaines avec un petit mois de février, ça fait 4 mois. Donc en travaillant 2 heures de plus par jour seulement, et pas toute l'année, seulement pendant 300 jours, tu gagnes 4 mois sur tes concurrents. Et il était 5h07, il m'a dit... En ce qui concerne l'aide et les subventions, je ne peux rien faire pour toi. Prends maintenant mon conseil et allez, au revoir. Et il était 5h07. J'avais fini le meeting avec lui, 5h07 le matin. J'ai dit, je vais vite au buffet de gare, quand même boire un café, nom de Dieu. Surtout qu'on ne m'avait pas donné la subvention. Il m'avait juste donné cette recommandation. Et je vais donc...
Mais ce n'était pas rien, c'était important. Hein.
Attends, phénoménal, mais c'est la leçon de ma vie. Moi, j'ai eu des... Ça, c'est... Voilà le premier privilège que j'ai reçu, c'est d'avoir reçu une recommandation de ce type. Maintenant, bien sûr, j'ai aussi écouté. Des fois, tu donnes des conseils aux gens, ils n'écoutent pas. Bah, tant pis. Moi, j'ai pris ça pour du pain béni. Et donc, je suis allé à 5h07 au buffet de la gare. Buffet de la gare, il y avait 15 gaillards qui hurlaient avec des bières dehors, devant. J'ai dit, oh nom de Dieu, je ne vais pas me foutre dans
pas
cette ambiance.
Pas tomber dans ce travail.
Voilà. Et... Comme je ne voulais pas retourner à la maison pour ne pas réveiller enfants et femmes, j'ai dit, bon, je vais au bureau. Et nom de Dieu, c'était la première fois que je montais, que j'allais dans mon usine, à sitôt. Et depuis lors, j'ai toujours gardé cette règle. Et je l'ai toujours, autant que possible, je l'ai appliqué.
On va parler un peu des secrets de ta réussite. Ça en fait partie, évidemment. Il y a un autre truc qui est complètement fou, parce que j'ai eu l'occasion de le pratiquer, c'est ta vitesse de réaction dans les mails, dans les SMS, dans tout ça. C'est phénoménal. Et moi, je te prends régulièrement en exemple parce que je sais que où que tu sois, on t'envoie un SMS et on a la réponse à peu près dans les 10 minutes qui suivent. Et là, que tu sois au Mexique et partout. Et moi, souvent, c'est vrai qu'on a affaire à des gens qui ne s'appellent pas forcément Jean-Claude Biver, qui se permettent de nous répondre 3 jours après. Et moi, souvent, je leur dis, mais si Jean-Claude Biver nous répond dans les 10 minutes, c'est vrai que toi, tu devrais nous répondre dans les 2 minutes 10 et pas dans les 3 jours. Donc ça, c'est assez phénoménal. Ça fait partie du succès.
Ah ben, ça fait partie du succès. C'est...
Tu m'avais dit une fois un SMS, je le traite dans la minute, oui, dans les 10 minutes, ça. Le mail, dans la journée, ça, le courrier. C'est ça, c'est enfin, ça, c'est quelque chose
Exactement.
Que tu mets évidemment en
Exactement.
Place. C'est très important.
Ben oui, et il faut savoir utiliser les moyens de communication. Et quand on a des moyens de communication rapides, mais on met 3 jours pour répondre, ça sert à quoi que les moyens de communication soient
Autant
rapides.
Revenir au pigeon voyage. voyageurs, finalement. On est un peu d'accord. C'est vrai.
Bah oui.
Et de nouveau. Ça, c'est la réussite. L'autre réussite, Jean-Claude, c'est aussi l'entourage, savoir s'entourer. Tu l'as dit au Grand Prix de l'horlogerie, on peut faire une petite parenthèse où tu as rendu effectivement un très très bel hommage à la fois à ton épouse Sandra, on y reviendra peut-être dans l'émission, mais c'est très important. Il y a eu Sandra, bien sûr, la famille importante, et puis l'entourage, les gens qui sont avec nous, sachant qu'on est, on est une équipe.
Ben, on est une équipe, et la personne qui a travaillé le plus depuis le plus longtemps avec moi, elle a commencé avec moi en 1979. Après, tu as des gens comme Ricardo Guadalupe, qui est le patron de Hublot aujourd'hui. Il est venu chez moi en 86. Il y a une directrice marketing, Valérie Servageon, elle est venue avec moi en 93.
Mais ça veut dire que quand on a connu Jean-Claude Biver, on ne peut pas s'en passer.
Bah ouais, puis ils m'ont tout le temps accompagné. Et ils m'ont suivi à travers les différentes phases de ma vie professionnelle. Blancpain, Omega, Hublot, puis Tagoyer, puis Zénith. Donc ces gens-là, c'est ma garde rapprochée qui m'a toujours suivi.
La réussite, c'est aussi eux. Ah ben, tu l'avais bien dit au Grand Prix de l'horlogerie.
Surtout eux, voilà. Et, tu sais, un chef d'orchestre n'est aussi bon que sont bons les solistes qui jouent dans l'orchestre. Et ça sert à rien que tu sois un bon chef d'orchestre si le gars ne sait pas jouer au piano.
C'est à peu près ça. Jean-Claude, on revient à ce SIHH. Je précisais qu'on est là dans des salons. On les remercie du reste de l'hôtel Kempinski. Ce salon SIHH, c'est un baromètre. Hein. Alors c'est un peu spécial parce que vous n'êtes pas vraiment le groupe hein, LVMH, pas vraiment lié au salon directement. Un peu en marge, hein, un peu.
Bah oui, Hublot a fait plusieurs demandes, deux demandes de rejoindre le SIHH à l'époque, hein, et deux fois on nous a refusé. Bon, voilà. Et comment nous a refusé deux fois ? À la troisième fois, on a dit mais puisque eux ne veulent pas qu'on soit là, ben nous on ira au Kempinski.
On va s'inviter.
Voilà, et on peut pas se permettre d'avoir des clients qui viennent du monde entier, qui font 12, 15 heures de vol, et qui viennent à Genève, alors que nous habitons à Genève, alors que notre manufacture est à Nyon, et on les laisserait comme ça.
Ouais, les gens comprennent pas la petite guerre interne, la petite jalousie, voilà. De nouveau. Hein,
donc les gens, on s'est dit, mais allons au Kempinski, on va louer une partie du Kempinski, on a, je sais pas, 5000 mètres carrés, et puis on reçoit nos clients. Et ici au Kempinski, on fait chaque année entre 200 et 250 millions de chiffre d'affaires. On reçoit donc pour 200 à 250 millions, cette année ça sera 250 millions de commandes en 4 jours. Donc c'est
là,
tout
pardon,
à fait...
on parle des
Hublot, Hublot.
Juste Hublot.
Je parlais que d'Hublot là.
On va pas parler...
Parce que les autres marques n'étaient pas là avant. C'est Hublot, puisqu'elle était à Nyon, qui a décidé en premier, il y a 9 ans... Puisque vous nous refusez au SIHH, puisque deux fois vous nous fermez la porte, ben maintenant, nous, on va se mettre en périphérie et on va se mettre au Kempinski parce qu'on ne peut pas laisser passer des clients qui ont fait 12 heures de vol et puis leur dire, écoutez, nous, on n'est pas là. Revenez à Bâle dans 6 semaines, ce qui est une absurdité totale. On ne peut pas demander aux mêmes gens de venir deux fois en Suisse, de faire deux fois 24 heures de vol, 12 pour aller, 12 pour retourner, et 12 de nouveau pour aller, et 12 pour retourner. Donc voilà. Et c'est pour ça que Hublot, il y a 9 ans ou 10 ans, est venu au Kempinski. Et depuis, c'est devenu une tradition. Et nous y reviendrons encore longtemps. Nous avons des stands, nous accueillons toutes les filiales, tous les détaillants. Et comme je t'ai dit, on va faire cette année un quart de milliard de chiffre d'affaires. Quand
donc,
on fait 250
donc ça veut dire que tout va bien, Jean-Claude Biver,
pour Hublot,
dans le monde de l'horlogerie. Parce qu'il y a eu une période, hein, dernières années difficiles. Là, c'est quoi ? On est plutôt un peu en train de remonter parce qu'après, il y a encore des choses dont il faut tenir compte. Là. Enfin, on ne va pas forcément débattre sur la guerre commerciale Chine, États-Unis, mais c'est important. Hein. Ça joue un énorme rôle.
Le plus important de tout, c'est le degré d'incertitude qui règne. Plus l'être humain est dans l'incertitude, plus il épargne. L'incertitude, c'est l'ennemi de la consommation. Alors des fois, ça serait bien qu'on ait un peu plus d'incertitude parce qu'il y a de la consommation excessive. Mais l'incertitude freine l'envie de dépenser. Parce qu'on se dit, on ne sait pas de quoi demain est fait.
C'est vrai qu'une montre, on est déjà dans le luxe. Hein. On n'a pas d'obligation d'avoir grosses marques au poignet.
Exact.
C'est plaisant,
voilà.
Mais c'est pas
Donc quand il y a des incertitudes commerciales, politiques, financières, quand en plus il y a des guerres, quand en plus il y a des guerres commerciales,
tensions comme ça,
et des tensions internationales, quand en plus il y a des incertitudes, il y a des gilets jaunes, etc., etc., ça crée beaucoup d'incertitudes et l'incertitude est pénalisante au niveau de la consommation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais malgré cela, on a fait une année 2018 exceptionnelle, record historique quand même. Et puis on entre.
On parle toujours que du
Hublot. Hublot. Oui,
Hublot. On parle pas de Tagueyère.
Zénith a fait les trois marques.
C'est quand même le groupe, hein, c'est l'ensemble.
Ouais, Hublot, c'est la Formule 1. Alors on a des voitures. Si je prends maintenant les marques. Ben, on a des marques qui sont des voitures de rallye, et on a des marques qui sont des voitures de 24 heures, 24 heures du Mans, et puis on a une marque qui est une voiture de Formule 1, c'est Hublot. Alors, c'est trois voitures différentes, elles ont trois...
Et qui est en Formule 1.
Et qui est, en plus,
on est en plein dedans.
Donc, c'est une marque qui est dans un développement phénoménal. Je dis des fois, on n'arrive plus à l'arrêter. On n'arrive pas à arrêter Hublot, c'est inarrêtable.
Et Jean-Claude, ce qui est fou, parce qu'on le disait juste avant de prendre le micro, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est vrai que Hublot, avec la notoriété, on en parle beaucoup, très présent dans plein de trucs, hein, football, enfin, on a peut-être l'occasion aussi d'en parler, mais c'est énorme. Et c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a un bâtiment là derrière, qu'il y a 4000 personnes qui travaillent à Nyon, etc. Puis c'est vrai que quand on arrive à Nyon, on se dit, mais tiens, mais c'est que ça, Hublot.
Alors,
c'est un peu surprenant de se dire que tout se fait finalement là-dedans. Ouais, c'est
400,
énorme.
Il y a 400, à Hublot, on a donc aujourd'hui à Nyon deux manufactures, deux bâtiments. Et dans les deux bâtiments, nous avons 435 personnes qui y travaillent. Et nous avons des plans pour 2020 ou 2021 de construire un troisième. Parce que voilà, on se développe. On fabrique quand même plus de 50 000 montres. Donc c'est pas rien.
Quand tu as repris, on en fabriquait combien? Qu'on voit un peu cette progression parce que tu as redynamisé.
On a fabriqué 9 000. Donc voilà, on a et puis
juste 40 000 de plus. Quoi.
Voilà. Ouais. Et donc la marque, elle est pour 50 ou 60 000 montres qu'on fabrique, on est la 10e plus grande marque horlogère en chiffre d'affaires de la Suisse, mais elle a une notoriété, comme tu l'as dit, qui est largement au-dessus de sa taille réelle. Et ça provient du marketing, ça provient de la communication, ça provient aussi de tous les événements, sponsoring avec Ferrari. L'année dernière, on a fait 275 événements ensemble dans le monde. Hein. 275, ça fait presque un par jour d'événements ensemble. Et regarde la Coupe du Monde où nous étions le official timekeeper de football en Russie. On a invité plus de 1000 personnes. Donc tout ça, peu à peu, ça te crée une notoriété, une accélération extraordinaire de la notoriété. Et ce qui fait qu'on a passé, si tu veux, de 26 millions de chiffre d'affaires en 2004 à plus de 700 millions aujourd'hui.
Le football, sa présence extrêmement importante, ça a plus ou moins commencé, enfin on s'en rappelle, Coupe du Monde de football en Allemagne, avec l'équipe
avec
de
Kevin
Suisse,
Kuhn.
Avec Kevin Kuhn, avec Michel Pont qu'on salue.
Oui.
Ça a commencé là, ça va s'arrêter où? Parce que là vous avez complètement envahi le marché, aussi bien au niveau des fédérations qu'au niveau des clubs. Moi j'ai envie de dire, quel est le joueur ou l'entraîneur qui n'a pas sa Hublot au poignet? Franchement, il n'y en a pas beaucoup.
Alors ça va pas s'arrêter. On ne peut pas dire où ça va s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. D'abord parce qu'on a des contrats très 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 longs. On avait signé en 2007 avec Sepp Blatter. On avait signé la Coupe du Monde 2010. 2010 en Afrique du Sud, 2014 au Brésil, 2018 en Russie. Et on avait signé 2022, mais à l'époque, on ne savait pas encore que c'était de, Doha. Donc, on avait signé de 2010 à 2022.
Et on c'est est ce qui s'appelle verrouiller le marché. Hein.
Exactement.
Et c'est, pas beaucoup de
et c'est ce
pour
qui s'appelle
autres.
Aussi croire dans le marché. Et quand on croit dans un marché, il faut surtout donner beaucoup de constance. Il ne faut pas changer. Il faut sans... Tu sais, l'Église nous apprend souvent des règles marketing. Eh bien, l'Église, dans les villages, surtout l'Église catholique...
Il faut la remettre souvent au milieu du village.
Hein, et elle fait sonner les cloches tous les dimanches. Et tous les dimanches, elle dit, venez, 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 je vais vous répéter les 10 commandements tous les dimanches. Ça veut dire que l'être humain a tout le temps besoin qu'on lui répète la même chose, comme les enfants, quelque part. Eh bien... Dans, si tu as une marque, bah, tu dois répéter, répéter, répéter. Ça ne sert à rien d'être dans le football pendant 3 ans ou 4 ans. Non, une fois que tu as choisi le football, jusqu'à ce qu'il y ait un changement culturel dans le monde, bah, tu restes lié au football. Et moi, je pense que si je meurs dans 30 ans, j'espère que dans 30 ans, on sera encore dans le football.
Moi, je crois que dans plus de 30, dans 30
non,
ans...
Non, dans 30 ans, ça, j'ai 100 ans.
Mais c'est
j'aurais
bien,
101
c'est,
ans.
C'est,
ouais, bah ouais.
C'est parfait. 70 ans cette année, ça fait non, c'est bien. Ça fait,
bah écoute, je ne m'en rends pas compte.
On va s'en remettre.
Le danger de vieillir quand on est en aussi bonne santé que moi aujourd'hui, c'est de ne pas se rendre compte qu'on vieillit et de demander au corps... et à la tête, les mêmes efforts que quand tu te sentais 20 ans. Et là, il faut faire un tout petit peu attention, se dire, attention les gars, j'ai plus 20 ans, je fais plus un aller-retour, New York aller-retour, le même jour. En novembre, je l'ai fait encore. Mais enfin, il faut que maintenant, je me raisonne.
On parle un peu santé. On aurait pu commencer par ça du reste. Mais c'est vrai qu'avec toi, j'ai envie de parler de tout en même temps. Donc, il faut arriver à canaliser un peu. La santé, quand même, primordiale. Alors, ce n'est pas un secret parce qu'on l'a vu dans la presse. Et tu ne l'as jamais caché parce qu'il n'y a pas de honte. Il n'y a aucune honte à ça, bien évidemment. La santé fondamentale, est-ce que... On peut dire que tu as trop tiré un peu sur... On dit le travail, c'est la santé. Est-ce que... T'as quand même un tout petit peu trop tiré. Qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qu'il y a eu
exactement. Moi, je pense pas que j'ai trop tiré. J'ai eu un pépin en cours de route et le corps a tout d'un coup donné des signaux comme quoi il pouvait plus supporter le même rythme. Mais il m'a pas dit que c'était parce que j'avais trop tiré avant. Tu peux avoir une panne avec ta voiture, le moteur, mais c'est pas parce que t'as roulé vite avant. Donc j'ai l'impression que j'ai pas trop tiré, mais que simplement j'ai eu une panne. Maintenant, si on prend en considération que j'ai 70 ans, que si, que ça, que je dors 4 heures par nuit, que je fais plus de 600 000 miles par année en avion, que je vais jamais plus d'un jour à Tokyo, que je vais 10-12 fois par année à Tokyo,
ouais,
un jour aller-retour.
C'est quelques heures, hein, dans les voilà. Ces déplacements,
ouais,
c'est quelques heures.
C'est
des
quelques
voyages
heures
éclairs à chaque
hyper
fois.
Hyper intenses. C'est des voyages où je suis 15 heures sur place, mais 15 heures sur place où je travaille 15 heures non-stop. Depuis l'arrivée de l'aéroport jusqu'au redépart le lendemain, je vais non-stop.
Tu prends pas le maillot de bain ni l'écran total.
Pas
le temps de sortir
non,
ça de la valise.
D'ailleurs, quand je suis parti avant Noël à Tokyo avec mon fils l'année dernière, qui avait à l'époque 17 ans, ma femme m'a dit, mais pourquoi tu vas à Tokyo? Tu as été 114 fois. Je dis, mais parce que je ne connais pas Tokyo. Elle me dit, comment tu ne connais pas Tokyo? J'ai dit, mais je connais les bureaux et je connais les taxis, mais je ne connais pas Tokyo. Et je veux que Pierre me montre le Tokyo des milléniums parce que je veux connaître pourquoi les milléniums et qu'est-ce qu'ils achètent, quels sont le type de magasins qu'ils aiment pour connaître cette nouvelle génération. Donc, je suis allé à Tokyo pour découvrir Tokyo.
Il y a l'Inde aussi, hein, pareil, un peu. Hein.
Alors, l'Inde est pareil, bien sûr.
La Chine, combien de
la
fois
Chine,
en Chine,
la Chine,
énorme.
Hein, énorme.
À un moment donné, chaque fois que... Essayer de se joindre, tu étais en Chine.
Ouais, souvent, ben oui, souvent, c'était un marché qu'on devait développer. Et donc, si le corps médical non plus me dit, il dit pas que c'est parce que j'ai trop travaillé que j'ai attrapé une polymyalgie, la polyarthrite n'a rien à faire avec le boulot. Il n'empêche pas moins que c'est un pépin qui devrait me servir d'avertissement. Et donc, parce que j'ai eu ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'est peut-être le bon moment de commencer à réfléchir. Est-ce que je dois réduire mon rythme ? Alors, et je pense que je vais le réduire légèrement.
Il y a un mot, évidemment, dont tu as horreur, et je comprends, c'est retraite. Un mot qui n'existe pas, parce que comme tu l'as dit de nouveau au Grand Prix de l'horlogerie, tu as dit très justement, quand on a une passion, on ne peut pas s'en séparer comme ça. La passion, c'est quelque chose qui dure toute sa vie. Alors avec ces nouvelles fonctions maintenant de LVMH, parce qu'à préciser que tu as été pendant quelques années le président du groupe horloger, aujourd'hui tu es président, alors non exécutif, c'est le terme. Ça veut dire ça concrètement. Alors il y a l'exécutif qui est un nouveau monsieur Bianchi, de tête comme ça. Non exécutif, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire être président du conseil. Les présidents des conseils d'administration sont précisément non exécutifs, parce que si le président du conseil d'administration est exécutif, CEO il fait quoi ? Et donc nous avions souvent les deux en même temps. Et il y a eu des règles à la bourse, etc., pour essayer de séparer le conseil, le président du conseil, du CEO. Parce que si les deux sont le même, il est où le contrôle ? Donc, moi, je suis simplement maintenant président et j'ai une fonction, une mission. La mission, c'est de transmettre. Parce que j'ai quand même 45 ans d'expérience, j'ai quelques succès aussi derrière moi. Donc maintenant, je dois aider, je dois conseiller, je dois coacher aussi. Donc ça c'est mon. D'ailleurs, je suis à Genève depuis dimanche. Je commence le matin, comme tout le monde. Donc j'ai pas vraiment réduit.
Il n'y a pas de changement.
Alors, le grand changement, c'est que si ça va mal, ça sera pas moi.
Ouais.
et si ça va bien, ça sera pas moi non plus. Donc, c'est le changement le plus important. Et pour moi, d'endosser la responsabilité ou pas, c'est pas ça qui m'importe. Il m'importe de transmettre, de donner des avis, de donner des conseils quand on me le demande, d'être toujours à disposition et d'utiliser ma notoriété pour la promotion. Et c'est vrai que si moi je vais au Mexique dans une exposition et que je fais un discours, ça attire un peu plus de monde et ça donne à l'événement une autre aura que si c'est quelqu'un qui est à peine connu. Voilà.
Justement, cette communication, cette facilité, parce que c'est vrai que chaque fois que tu prends le micro, chaque fois que tu te mets devant un auditoire, c'est un carton, c'est standing ovation. Ça a été le cas du reste, encore une fois, référence de ce Grand Prix de l'horlogerie. Ça, tu l'as en toi, tu l'as depuis toujours. C'est un trait de caractère.
C'est un trait
énorme,
de caractère.
Énorme communicant.
C'est un trait de caractère. D'abord, c'est un trait de caractère. Ensuite, je l'ai aussi eu depuis que je n'ai pas peur de me tromper. Beaucoup de gens ont peur de parler par la peur de dire quelque chose qui n'est pas juste. Et je dis souvent, un entrepreneur, c'est beaucoup de choses. Mais enfin, c'est avant tout aussi quelqu'un qui a le courage de se tromper. Et en général, l'être humain a peur de se tromper. Et moi, je dis aux étudiants, quand je fais mes conférences dans les différentes universités, je dis, enlevez cette peur de l'erreur, ayez le courage de commettre des erreurs. Parce que l'erreur est formatrice, l'erreur vous fait progresser. La seule chose qui ne vous fait pas progresser, c'est que si vous répétez toujours la même erreur.
On dit la même chose dans le sport, Jean-Claude.
Mais
on
apprend
souvent plus dans la défaite que dans la victoire. Parce que quand on a gagné, on ne se pose pas la question de savoir comment on a gagné.
C'est ça, c'est pour ça que j'aurais dû utiliser l'exemple du sport. Tu as tout à fait raison. Combien de fois Federer a raté son revers jusqu'à ce qu'il l'ait ajusté, jusqu'à ce qu'il ait appris c'est la jambe d'appel, etc. Donc, c'est forcément par les erreurs et par la correction de ces erreurs, parce qu'on les a compris, parce qu'on les a assimilées, et donc on ne les répète plus. Bah, c'est comme ça que tu arrives au sommet.
C'est ce qui fait qu'à 70 ans, on est mieux
enfin, oui,
qu'à 40,
sûr.
Parce
bah,
qu'on
oui.
a appris de ses erreurs.
Par la force
et puis
des
souvent,
choses.
C'est là où on doit s'arrêter de travailler.
Ce qui est
ridicule. Côté un peu absurde.
C'est un gâchis.
C'est ça.
C'est un gâchis
mais
total.
Mais ça, tu l'as compris avant des autres, parce que ouais. sauf erreur, en tout cas chez Hublot, vous aviez la particularité
d'engager
des vieux.
Exact.
On va dire ça comme ça.
Maintenant, on peut
c'est
m'engager moi.
Enfin, nous, allez, nous.
Ouais, nous.
Soyons clairs, ça continue.
Mais bien sûr,
ouais.
ça continue. Et je continue à prétendre que quelqu'un qui part à 70 ans, évidemment, si c'était un imbécile, c'est bien, on est content.
Ouais. Mais quelqu'un qui... Ceux-là, on s'arrange de les faire partir un peu avant, en général.
Ouais, même avant, bon, ceux-là.
Pas donner de nom.
Mais si c'est quelqu'un de compétent, mais c'est une véritable perte. Donc, je peux comprendre qu'il ne peut certes peut-être pas travailler plus à 100%. Je peux comprendre qu'il n'a pas nécessairement envie d'avoir des responsabilités opérationnelles.
Pas obligé mais de
alors,
se lever à 3h du matin non plus.
Donnons-lui des responsabilités qui sont adaptées et un horaire particulier.
Un horaire à la carte, en fait.
C'est ça.
Et comme ça, on
voilà.
profite de ses compétences.
Exact.
Jean-Claude, une question, parce que c'est vrai que orateur... exceptionnel, visionnaire, enfin bref, tout ce qu'il faut. La politique, tout simplement. Tu n'as jamais tenté, il n'y a jamais eu d'appel
non.
du pied parce que tu aurais tout pour cartonner aussi en politique.
Non, mais je n'aurais pas la patience des débats.
Oui, style Macron, il y a un ou deux jours, il a quand même tenu le crachoir pendant 6 heures.
Oui, mais il était tout seul,
il n'y
avait personne
en face.
Non, écoute. Moi, j'ai des inquiétudes pour la politique, pas en Suisse nécessairement, non, même au contraire. J'ai quelques inquiétudes quand je vois les agissements des politiciens, mais c'est quelque chose que je lis, je m'informe, mais je ne souhaite pas, et je pense pas que j'ai la fibre, ni la patience, ni l'art du consensus, pour m'accommoder de la politique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que rarement de grands entrepreneurs sont entrés en politique. Bon, il y a Blocher qui était un grand entrepreneur, mais tu vois, des gens comme M. Hayek, etc., c'est rare parce qu'on sent qu'on n'est pas tout à fait fait pour cela. Voilà, maintenant la politique...
Et puis la présidence de fédération, parce que ça va un petit peu ensemble, ou le CIO, ces choses-là, ça c'est quelque chose qui aurait pu
t'intéresser, parce que là
président
j'ai un
d'une fédération,
direct,
de football, voilà. de trucs...
sans problème.
Ça, ça aurait pu...
Oui.
Ça pourrait être quelque chose qui aurait pu t'intéresser.
Bah oui, si on avait eu les Jeux Olympiques à Sion, j'aurais, d'ailleurs je l'ai dit dès le début, c'est volontiers que j'aurais contribué à en faire un grand succès. Ça oui... Parce que là, j'ai un intérêt direct et j'ai une fibre quand même pour le sport, beaucoup plus que je l'ai pour la politique.
Jean-Claude Biver, on va revenir un petit peu aux montres. Hein. On va et on vient, les montres, le groupe LVMH qui est dirigé par Bernard Arnault. Bernard Arnault, un des hommes les plus riches du monde. Hein. Je crois qu'il est quatrième. Sur la liste. Comment est-ce qu'il est ? Comment est-ce qu'on travaille avec Bernard Arnault ?
Alors,
d'abord, est-ce qu'on le voit ? On a des contacts réguliers ou bien confiance totale ? Comment est-ce qu'il est ?
Je dirais, il est extrêmement discipliné comme homme. Il est exceptionnellement dévoué au travail. Il est très très proche de ses marques. Il n'hésite pas. Il n'hésite pas à partir le 22 décembre au Japon. Voilà, alors que tu as des petits cadres, quand tu leur dis le 22 décembre, il faut aller au Japon, ils disent
non. Il fête déjà Noël depuis une semaine, c'est ça.
Ouais,
lui attend plutôt le 24.
Ils disent, ouais, mais alors si je reviens le 25, il faudrait que l'avion atterrisse avant midi. Enfin bref, donc c'est un homme très impliqué, c'est un homme... Il est entrepreneur, mais en plus il a une énorme culture. C'est un artiste. La manière dont il joue au piano, c'est proche d'une performance de professionnel. C'est un collectionneur d'art. Et bien, quand tu as tout ça, et en plus tu es entrepreneur, tu as une dimension additionnelle. Et c'est un homme qui a une dimension additionnelle. En ce qui me concerne, je suis, je peux le dire, je suis assez proche de la famille, de monsieur, de madame.
Il y a cinq enfants,
des enfants,
quatre,
voilà.
Cinq enfants, dont un qui reprend tranquillement,
oui,
en tout cas l'entreprise.
Oui, ici.
Il a la taille, lui.
Oui,
il a c'est la Alexandre, taille. Je crois.
Oui,
c'est ça.
Non, Frédéric.
Frédéric, pardon.
Frédéric Arnaud. J'ai mangé en tête à tête avec lui hier soir au restaurant chinois du Kempinski. Et Frédéric me redisait, merci, je suis chez TAG grâce à toi.
Attention, il faut dire TAG hier, hein, parce qu'autrement vous allez mettre de l'argent dans la cagnotte. Hein.
Oui, mais moi, ça
votre successeur, il a dit, si on appelait ça TAG, on met de l'argent dans une cagnotte.
Moi, ça me fait
ça
plaisir.
Ça vous a pas échappé.
Non, non, mais
non, attention.
Mais moi, j'ai un bonus dans la cagnotte.
Donc, il faut mettre des anciennes pesetas ou choses comme ça. On
des francs français.
Des francs français, exactement, exactement. Comme ça, on peut, ouais, on peut rater le truc.
Donc voilà, donc, j'ai une bonne relation avec l'ensemble de la famille. Maintenant.
Mais il a les capacités, il a les qualités.
Frédéric. Ah ben, attends, je vais te dire une chose. J'ai rarement vu un jeune homme de 23 ans avec une intelligence aussi brillante. Le Frédéric est exceptionnel. On ne peut pas dire... Alors bien sûr, tout exceptionnel qu'il est, il ne peut pas avoir l'expérience,
ah oui,
et la patine,
hein,
que moi j'ai. Donc, je me l'imagine le jour où il a, allez, 10 ans d'expérience, mais ça sera un grand patron.
Et c'est là où, évidemment, bah, toute ta présence retrouve une fois de plus,
oui,
son sens.
Mais oui, mais
là, c'est un complément qui, ouais, est exceptionnel. Il a une chance folle, mais il doit s'en rendre compte d'avoir
il me l'a dit encore hier soir. Il m'a dit, moi, je suis venu parce que vous êtes mon mentor. Et je suis venu à cause de vous chez Tagoyer. C'est à cause de vous que je suis venu. Il me l'a dit, donc je le répète. Mais il ne me l'a pas dit une fois, il me l'a dit 10 fois, 20 fois. Donc c'est un jeune homme qui a un futur extrêmement brillant devant lui. Parce qu'il a, pas parce qu'il s'appelle Arnaud, son futur n'a rien à faire avec son nom. Le futur a à faire avec ses compétences, son intelligence, son intuition, son un certain charme. Et puis une certaine faculté de négociation. Donc c'est vraiment un jeune homme appelé à un des plus brillants avenirs que peut avoir un jeune homme.
Il n'est pas juste dans les traces de son père, c'est quelqu'un qui mérite...
Alors il a beaucoup de qualités de son père. Bon, il joue un peu mieux au piano même que son père.
Encore mieux.
Il joue extrêmement bien au tennis.
C'est vrai que quand on s'appelle Arnaud, ça aide quand même, mais ensuite de ça, on est bien d'accord qu'il faut des qualités pour arriver à amener l'entreprise.
Et ça aide, évident, façon de parler, parce que les gens deviennent tout de suite jaloux, méfiants et critiques. C'est facile de critiquer. Donc, s'appeler Arnaud, c'est aussi lourd. C'est pas seulement des avantages, il y a aussi un poids. Et on est tout le temps observé, on est tout le temps... les gens sont prêts à critiquer. Non.
Jean-Claude, on a parlé de Bernard Arnault, alors multimilliardaire, hein, on est bien d'accord. Jean-Claude Bivert, lui, n'est que multimillionnaire, on peut en parler parce qu'on le voit dans le bilan, il n'y a pas de secret.
C'était dans les
300 plus riches de Suisse. Entre 100 et 200 millions, hein, c'est la fourchette. On est plus proche des 100 ou des 200, par exemple, parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Hein.
Bah, non, mais ça dépend beaucoup de la bourse.
Alors, on y vient.
Tu sais, quand on lit toutes ces fortunes, il y a des fortunes qui sont liées à des actions. Et si l'action a perdu...
Alors, c'est la réponse à la prochaine question. Que fait Jean-Claude Bivert de son argent? C'est plutôt de la bourse, c'est plutôt des actions, c'est plutôt là où tu investis.
Je ne suis pas un grand investisseur.
On essaye un petit peu de répartir...
Moi, je crois dans la technologie... je crois dans Apple, je crois dans Amazon, mais je crois aussi dans l'UBS, je crois dans le Crédit Suisse.
Bon, Jean-Claude, pardon, je me rappelle une fois, c'était ce ferreur chez Darius Rochebain où tu encourageais les gens à acheter des actions UBS à l'époque à 20 francs.
Puis elles sont descendues à 9, à 8.
C'est ça. Et là, aujourd'hui, elles sont plutôt à 13.
Et
mais tu y crois toujours, par exemple.
Mais aujourd'hui, j'y crois. Oui, j'y crois. et je me trompe aussi.
Donc là, il faut investir dans quoi ? Parce que ça peut rendre
aujourd'hui,
service.
Oui. Mais je dirais, franchement, moi je crois...
Biotech, tout ça, c'est clair que c'est du...
Mais c'est, la technologie, c'est immanquable, on y va, je veux dire, on y est. Donc, tu peux investir dans les drones... tu peux investir dans les batteries, tu peux investir dans l'hydrogène, mais tu peux aussi investir
dans le développement durable, dans le médical,
oui, mais, et aussi dans
l'intelligence artificielle.
Oui, ben voilà, et l'agriculture. L'agriculture a un futur énorme, il faudra nourrir la planète. Tu peux investir dans les forêts. Donc aujourd'hui, il y a des multiples manières d'investir. Mais je ne suis pas banquier, et quand je vois les performances ou les recommandations que j'ai faites, j'ai des fois peur de dire ce qu'il faut faire.
Oui, c'est vrai que ça bouge. C'est vrai que ça bouge tellement. C'est vrai que l'action UBS à 20 francs, j'étais vraiment à deux doigts d'en acheter.
Mais quand elle a passé
de 70... Si Jean-Claude le dit, c'est que ça va monter à 60 dans pas longtemps.
Moi, je les ai achetés à 20 et je les ai toujours. Et maintenant, elle va les
garder.
13.
Faut les garder.
Mais je pense qu'à la fin de l'année, elle sera à 15 ou à 16. Et puis dans 10 ans...
On y croit toujours.
Oui, à un moment donné, il faut y croire.
Jean-Claude, tu as parlé d'agriculture, ça me fait penser à la ferme. Parce que ça, c'est clair qu'on ne va pas oublier le côté ferme, parce que Jean-Claude, il est passionné par son travail, par son métier, l'horlogerie. À côté de ça, il y a quand même... beaucoup d'autres passions, il y a la ferme, il y a le fromage, il y a le vin. Un épicurien.
Alors je suis assez épicurien, oui, et j'aime comme tu as dit, j'ai une passion pour les alpages, les mazos ou les mayens, comme ils disent en Valais. J'ai une passion pour les fleurs, j'ai une passion...
Le fromage, comment est-ce qu'il va ? Il est magnifique, délicieux.
Alors le fromage, il est extraordinaire. Et il est fait par Christian Wolf, c'est le fromager, un jeune homme, il doit avoir 33 ans, et qui fait de l'étiva... d'une qualité...
On ne le trouve pas partout, hein, Jean-Claude,
ce fromage. De toute façon, le fromage que j'ai...
Pas des quantités...
Je ne le vends pas, c'est ça. Donc, il n'est fait que pour être donné en cadeau. Hublot...
À l'époque, on le trouvait chez Acrissier.
Oui, alors pas parce que je le donnais à Philippe Rochard.
À l'hôtel de ville. Hein.
Ben maintenant, je le donne aussi à Franck. Je le donne à Guy Savoie, à Paris. Mais ça, c'est des cadeaux que je fais. Je le donne aussi à Crans-Montana, à Saint-Moritz, au El Paradiso. Donc, il y a des endroits, parce que j'ai des amis, et je partage le plaisir d'offrir à mes amis.
Même quand on en a mangé du comme ça, c'est un peu difficile d'en manger de l'autre, si je peux me permettre. Donc ça ne doit pas être simple. Avec le chariot pour eux, ça ne doit pas être simple parce qu'ils disent tous, nous on veut celui-ci, là, on veut celui-là. Ouais. C'est un peu comme ça que ça va. On parle de Crissier, c'est important parce que c'est vrai que tu as suivi en fait toutes les étapes. Hein. Girardet, Viollier, maintenant il y a
Franck.
Vraiment, si tu devais, c'est un peu stupide, mais le meilleur, ça va être délicat comme question. Il se ressemble, il y en a un qui sort du lot quand même. On retrouve la même cuisine, toi qui...
Non, on retrouve le même soin, on retrouve la même obsession de la matière première, mais chacun a eu...
Sa
touche personnelle. L'un n'est pas une pâle copie de l'autre. Chacun est dans son style et dans l'évolution aussi des tendances et des goûts. Et Franck, qui a pris la succession de Viollier, il est Franck. Et il est, il faut que je le dise, il est exceptionnel. Il est exceptionnel.
Oui, tout comme Stéphane Bianchi ne va pas être Jean-Claude Biver.
Enfin, mais, voilà.
Mais je crois qu'il s'en rend déjà compte.
Il ne faut jamais l'être. On ne peut pas être le clone d'un autre. On doit avoir... Et puis, pour revenir à Stéphane, Stéphane avec lequel je m'entends bien, je l'ai dit récemment à un journaliste, je ne sais plus lequel, New York Times, ou je ne sais plus, je partirai volontiers 3 jours dans un Mayen avec lui. Pourquoi ? Parce que c'est un type qui est droit, c'est un type qui est sportif, c'est un type qui est sain, et c'est un gars qui fait du sport. Voilà. Et y a pas, je ne partirai pas volontiers 3 jours avec tout le monde dans un chalet de 50 mètres carrés. Donc, Mais Stéphane a raison, il ne peut pas être et faire ce que je faisais parce qu'ils se sont passés maintenant 4 ans. Et 4 ans après, Tagueyère a besoin d'une politique qui est peut-être en ligne, mais qui est différente. C'est comme, alors je prends toujours l'exemple, si tu as un athlète qui a tout d'un coup un accident et à la convalescence, tu l'entraînes pour qu'il revienne en forme. Mais tu ne vas pas l'entraîner à la sortie de sa convalescence comme s'il était au sommet de sa forme. L'entraînement va être adapté. Et plus l'athlète reprend des forces, plus tu accélères ces séances d'entraînement et plus tu durcis l'entraînement. Donc, ce que moi je faisais chez Tagueyère il y a 4 ans, on ne va pas le répéter en 2019, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas avancé. Puisqu'on a avancé, bah, il faut faire autre chose. Donc, c'est normal que Stéphane ne peut pas être, d'ailleurs ça serait stupide, un clone ou qu'il fasse 100% ce que vous faisait Piver.
C'est toi qui l'as choisi, entre autres?
Non, pas du tout, je ne le connaissais pas.
D'accord,
c'est M. Arnaud et le groupe qui ont choisi Stéphane.
Aujourd'hui, si on revient à Tagueyère, tu diriges toujours Tagueyère, c'est ça, un peu ad intérim, en attendant que...
Non, il est là, Stéphane.
Il est là. Non, mais Tagueyère, juste, lui, il chapeaute l'ensemble.
Non, il est Tagueyère aussi.
Il est aussi Tagueyère.
Oui, il est le CEO de Tagueyère.
D'accord.
Il est le CEO de Tagueyère.
Ça m'avait un peu échappé. On l'a dit, visionnaire.
Ah non, il est CEO de Tagueyère.
On l'a dit, visionnaire, vraiment plus ou moins dans tout. Si on revient à l'horlogerie, dans 20 ans, ça va se passer comment? Il y a un retour, il y a tout ce qui est mécanique, hein, Jean-Claude.
Aujourd'hui, il y a un retour vers ce que j'appelle l'éternité. Nous ne sommes environnés que d'objets qui vont devenir ou qui sont même destinés à être ou devenir obsolètes. C'est-à-dire achetés, jetés. Tous nos objets qui nous entourent, tous, que ce soit les voitures, les vélos électriques, enfin n'importe quoi qui est autour de toi comme objet, est appelé à disparaître, à devenir obsolète et à être remplacé. Il n'y a qu'un objet, un, qui peut être ou devenir éternel, c'est la montre. Big Ben, elle a 150 ans, cette horloge au sommet de la tour. Nom de Dieu, elle marche 24 heures sur 24 depuis 150 ans, elle n'a jamais été réparée. Quel est l'objet qui marche 150 ans, 24 heures sur 24? L'Airbus A380, je t'assure, dans 50 ans, il n'y en a plus un qui vole. Ce qui est normal. Donc, étant environné que d'obsolescence, l'être humain, il a besoin de s'accrocher à quelque chose qui est éternel. Alors tu me diras, oui, il peut s'accrocher à Dieu. D'accord, mais il peut aussi s'accrocher à Dieu et pourquoi pas à des choses qui sont éternelles. Et qu'est-ce qui est éternel à part Dieu? L'art. L'art de Mozart, il est là, il joue tous les jours. L'art de Picasso, il est là, il peint tous les jours. L'art des Grecs, l'art architectural des Grecs, il est là. L'art des Égyptiens, il est là. Donc, l'art est éternel. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'art? Il y a la sculpture, la peinture, et il y a aussi l'art horloger. Et l'art horloger a les mêmes propriétés que l'art en général, c'est d'être éternel.
Donc on peut continuer de collectionner les montres, on ne risque rien du tout. Ouais. C'est ce que tu fais du reste,
oui,
collection de montres,
oui,
on en parle comme ça,
fais.
Juste...
Bien sûr,
combien de montres, Jean-Claude, comme ça,
je
en passant
pas, alors, j'ai des montres importantes. Je dois avoir 150 montres, quelque chose comme ça.
Mais que du groupe, non, on trouve de
tout. Non, moi je ne suis pas un ayatollah.
D'accord.
Alors il n'y a rien de pire que de collectionner ou de dire, il n'y a que mes marques à moi. Ça, c'est absurde.
On trouve de toutes les marques.
Bien sûr, et j'ai une très grande collection de Patek, j'ai une énorme admiration de ce que fait Patek, j'ai une collection de Grebel et Forcé, qui est une des jeunes artisans exceptionnels qui font
c'est la seule collection, Jean-Claude, les montres, où tu es collectionneur dans l'âme, il y a d'autres choses que tu collectionnes?
Oui, j'adore les tableaux, comme tu l'as dit avant, j'adore le vin aussi, je collectionne
Château
des vins,
Château Yquem,
qui est un vin éternel, voilà, Château Yquem, il est éternel, j'ai des bouteilles de 1811, j'ai bu 1795,
Que
est éternel.
7 personnes vont boire à ton enterrement. Enfin, ouais, je ne ouais. vis pas, hein, ça ne presse pas, disons ouais. que j'ai lu ça.
Ça ne presse pas, ouais.
Non, ça presse pas.
Ils attendent.
Ils attendent.
Peut-être qu'ils seront morts, ceux qui doivent le boire.
C'est ça, c'est ça. Alors, moi, je viens volontiers, disons, éventuellement en 8e position dans les remplaçants. Ça peut être assez sympa.
Donc, tu vois, c'est... Donc, l'art horloger est appelé, bah, il n'est pas appelé, il est comme l'art de la peinture, l'art de la sculpture, il est éternel, point la ligne. Et l'éternité, c'est quelque chose dont on aura de plus en plus besoin, parce qu'on sera environné que d'obsolescence.
Jean-Claude Bivert, merci beaucoup en tout cas, parce que c'est vrai qu'on pourrait laisser évidemment traîner les choses, se laisser aller, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, thèmes. Je crois qu'on a déjà un peu fait le tour. On va vous laisser... continuer la journée. La journée maintenant, à partir de maintenant, elle va s'articuler comment ?
Ah bah,
8h du matin. On est à 8h,
ouais,
on peut le dire.
Je viens d'arriver, donc à partir de maintenant 8h, j'ai des rendez-vous jusqu'à minuit, non-stop.
Et là, c'est tous les...
Toutes les heures.
Ouais. Et ça, c'est...
Tous les heures ou tous les trois quarts d'heure, je ne sais pas.
Et là, il y a un
ça
mélange,
dépend.
Il y a des clients, il y a de la presse, il y a un peu de tout.
Alors aujourd'hui, il y a clients et deux interviews. Trois avec le tien, et puis il y a un petit déplacement au SIHH, à Palexpo, où je vois les patrons de Grubel et Forcé, Robert Grubel, qui est une marque que j'admire, et voilà, et après retour ici, et puis ce soir à 19h30 j'ai un repas qui se terminera, j'espère, vers 23h30.
Et demain, pot de phoque.
Et demain, et voilà. L'avantage que j'ai d'être non exécutif, c'est que j'attends pas à la fin du salon. Je dis demain, il y a presque plus personne. Eh ben moi, pendant qu'il y a presque plus personne, je pars aussi et je vais faire de la peau de phoque à Cromontana.
Merci beaucoup, Jean-Claude Bivert. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Direct News, le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, ce que l'on espère, eh bien pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Abonnez-vous à notre flux pour ne manquer aucun des prochains épisodes pour suivre mes entretiens avec différentes personnalités. Retrouvez-nous sur notre site direct-news.info et nos différents médias sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Direct News, MR en majuscule.